E-Radio, l'invité de la rédaction.
Bonjour Georges Chaminet.
Bonjour Laurence Aubran.
Alors, il est difficile de faire un résumé de votre carrière. On va citer quelques petites choses. Vous avez chanté sous la direction de Seiji Ozawa, qui a été d'ailleurs un élève de Karajan, qui a réalisé les premiers arrangements, si je ne me trompe pas, de la 9e de Beethoven.
Oui, tout à fait. Quand le Conseil de l'Europe l'a choisi comme hymne européen.
Vous avez également chanté sous la direction de Yehudi Mehounine, l'un des plus grands violonistes du XXe siècle. Vous avez chanté avec Montserrat Caballé et j'en passe parce que la carrière est très longue et les artistes avec lesquels vous avez collaboré, la liste est très très longue. Moi j'aimerais qu'on revienne, Georges Chaminet, si vous permettez, sur ce que vous êtes en train de monter actuellement, le Centre européen de musique.
C'est une longue histoire et donc je pense que je vais essayer d'être bref et de résumer 25 ans presque de ma vie dédiée à ce Centre européen de musique. Je me suis rendu compte à quel point, si vous voulez, la musique est toujours le parent pauvre de la société culturelle, si j'ose dire. C'est un peu toujours le dernier wagon et que, d'une certaine manière, elle a été, sans aucun doute, la manifestation humaine première ou primaire qui nous accompagne depuis que nous sommes conscients de notre histoire. Et donc, ce fut dans cette constatation malheureuse que j'ai essayé de porter ce Centre européen de musique qui aujourd'hui est un véritable projet pan-européen et international autour de la musique et de tous les bienfaits de la musique.
D'après vous, Georges Chaminet, quel est le rôle, la fonction, le but de la musique ?
Le but de la musique, c'est celle d'éduquer, si vous voulez, un des sens qui aujourd'hui est le plus maltraité, qui est l'ouïe, l'écoute. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de nous écouter. Et malheureusement, cette écoute a été abandonnée même au niveau de l'éducation, car vous voyez que la musique aujourd'hui est presque absente de l'éducation. Et cette éducation artistique et cette éducation auditive me semble absolument essentielle, parce que c'est comme ça qu'on pourra vivre véritablement la démocratie. La démocratie se base sur le respect de chaque voix, de chaque personne, et donc dans une écoute, dans un dialogue, dans un croisement. Et la musique, par son hybridité, est exactement cela. Et c'est pour ça que très souvent, et surtout devant les institutions européennes, j'ai toujours mis l'accent sur le fait que la musique est un des piliers fondamentaux de l'identité culturelle européenne. Pas fermée sur elle-même, pas dans une position de nombrilisme, si j'ose dire, mais au contraire dans cette ouverture qui a été l'histoire même de notre musique. Et c'est assez troublant quand vous allez en Chine, au Japon, en Océanie ou même dans les Amériques, quand on interprète un programme avec des compositeurs européens dits classiques, ils appellent cela, eux, la musique européenne.
Le Centre européen de musique, il est beaucoup centré sur des figures du 19e siècle. Georges Bizet, Pauline Viardot.
Alors ça, c'est parce que, si vous voulez, cette aventure a commencé dans une ville à 20 minutes de Paris, Bougival. Pourquoi Bougival ? Parce que c'est exactement à Bougival que Georges Bizet, malheureusement, est décédé à l'âge de 36 ans, mais c'est là où il écrit Carmen, qui devient l'opéra le plus populaire au monde. Et à côté, à 50 mètres, se trouve le domaine des Frênes, où se trouvaient Pauline et son mari, Pauline Viardot et son mari Louis, et l'écrivain russe Ivan Turgenev. Et il y a dans ce domaine musical, et aussi pictural, parce que n'oublions pas que Berthe Morisot avait son atelier à Bougival, mais également que Bougival est un des berceaux de l'école impressionniste. Donc, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, vous trouvez à Bougival une sorte de microcosme où il y a autour, surtout de cette femme exceptionnelle qui est Pauline Viardot, une sorte d'aimant des grands esprits européens de l'époque. Ce qui fait que, de l'Oural à l'Atlantique, dans les salons de cette villa aujourd'hui restaurée et qui a été un des premiers combats du Centre européen de musique, dans cette villa se réunissaient des politiciens, des historiens, des artistes, des musiciens, bien évidemment. Mais, si vous voulez, c'était l'esquisse d'une conscience culturelle européenne. Dans ce dialogue entre les arts, les sciences et les lettres, il y avait aussi l'idée du progrès, l'idée de la citoyenneté, et autour de Pauline Viardot, on a esquissé ce qui est devenu la conscience culturelle européenne comme réponse au nationalisme et au souverainisme du XIXe siècle que, comme vous le savez tous, poussaient comme des champignons. Et donc, devant cette réalité, il n'y avait qu'une réponse pour eux, c'était celle de la culture européenne. Et donc, c'est prenant, si vous voulez, ce flambeau avec la lecture qui devra être la nôtre au XXIe siècle, renouons avec cette exemplarité absolument extraordinaire et qui, par-dessus le marché, est autour d'une femme. Et c'est pour ça que je l'appelle la mère Europe, parce qu'on parle souvent des pères de l'Europe, mais pas si souvent des mères de l'Europe. Et elle en fut une, et ô combien.
Donc, vous voulez dire, Georges Chaminet, que le XIXe siècle porte des valeurs particulières dans la musique européenne ?
Absolument. Le XIXe siècle est un siècle de dialogue, est un siècle de citoyenneté. Voyez, par exemple, l'exemple de Beethoven. Beethoven est un exemple pour nous, musiciens, absolument essentiel, pas simplement comme compositeur, mais aussi comme citoyen. C'est lui qui, d'une façon parfois même agressive, voire violente, nous a sortis du servilisme dans lequel le métier de musicien était inscrit. Et dans le cas de Pauline, on va trouver exactement la même chose. On va trouver déjà cette transfrontalière, non, comment on peut dire ça? Le transfrontalier, si vous voulez, qui faisait partie de sa propre essence, puisqu'elle était d'origine espagnole, élevée en France, née en France aussi, mais qui après a parcouru toute l'Europe et même les Amériques. Et tout d'un coup, si vous voulez, elle se rend compte à quel point, après l'exemple de Beethoven, on ne peut pas détacher le fait d'être musicien du fait d'être citoyen.
Pourquoi des figures françaises ? Pourquoi la France ?
Écoutez, la France, à cette époque-là, je dois dire qu'elle était un peu, comment dirais-je, Beethoven a marqué les esprits, de telle sorte qu'il a marqué les esprits aussi de Georges Bizet. Georges Bizet a même composé des variations pour piano qui sont profondément beethoveniennes, les variations chromatiques. Mais ce qui a été important, je crois, ça a été ce lien très important entre les Lumières du XVIIIe siècle français, l'Aufklärung et le Sturm und Drang allemand. Et tout d'un coup, ce noyau qui finalement aujourd'hui continue d'être aussi essentiel dans la construction européenne, ce noyau franco-allemand, avec parfois naturellement des conflits, hélas, mais ce noyau a été fondamental. Donc il y a eu un vrai dialogue franco-allemand, et après, naturellement, qui a été élargi à bien d'autres cultures, et notamment la russe avec Ivan Turgenev, et le triomphe qu'a eu Pauline Viardot en Russie, puisqu'elle chante souvent, mais aussi à Moscou. Donc c'est une ambassadrice, si vous voulez, de l'Occident, à un moment où la Russie était exactement dans cette schizophrénie, si j'ose dire, entre guillemets, entre le slavisme d'un côté et le pont à construire avec l'Occident. Et Pauline Viardot ainsi qu'Ivan Turgenev vont être des éléments fondamentaux dans ce dialogue aussi avec la Russie. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte de bouillon de culture qui s'est fait exactement à Bougival, entre autres, mais surtout à Bougival, et qui a été, par exemple, le fondement de leur ami Victor Hugo et de ce texte fondamental encore aujourd'hui pour l'aventure européenne, qui sont les États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe sortent exactement de toutes ces discussions qui avaient lieu dans les salons de Pauline Viardot, entre autres.
Georges Chaminet, peut-on évoquer les projets scientifiques du Centre européen de musique ?
J'ai voulu, dès le départ, réunir autour de nous d'éminents scientifiques, d'éminents humanistes et d'éminents cliniciens autour de cette idée que la musique est quelque part le fil alchimique qui peut réunir une véritable transdisciplinarité. Donc aujourd'hui, on a de l'astrophysique à l'océanographie, on a de la philosophie à la musicologie, on a de l'histoire à la physique quantique, on a donc 14 disciplines qui se sont réunies devant ce défi que je leur ai gentiment proposé, qu'ils ont très gentiment accepté. Et donc, nous sommes en train de construire exactement ces ponts, ces dialogues, sur les bienfaits de la musique.
Oui, puis il y a aussi le lien entre musique et santé. Hein.
Exactement. Musique santé, musique neurosciences. On sait très bien aujourd'hui que la musique est une thérapie essentielle, éprouvée scientifiquement, pour des maladies neurodégénératives, pour le Parkinson, pour le Alzheimer. On sait aujourd'hui que la musique est essentielle pour des comportements du syndrome autistique, et tout cela est prouvé scientifiquement. Mais il y a aussi des liens, par exemple, dans cette pan-européisation du Centre européen de musique. Nous venons de lancer le Centre européen de musique au Portugal, le Centre européen de musique aussi en Espagne. Mais au Portugal, par exemple, nous aurons avec la ville de Lisbonne un lien très fort sur musique océan. On sait aujourd'hui que la musique est absolument essentielle, et le son en général, pour la défense de la biodiversité sous-marine, pour la défense d'espèces en voie d'extinction. Je vous donne un exemple. Nous avons, depuis quelques années, vu à quel point des baleines, des dauphins, des orques arrivent à des côtes qui sont complètement étrangères aux œufs favorables pour leur survie. Et aujourd'hui, avec le son, on peut les conduire vers des eaux favorables parce que comme il y a un changement terrifiant, je dois dire, des températures des océans, ça fait qu'elles ont perdu le sens de l'orientation. Et avec le son, on est capable de les conduire vers la survie, si j'ose dire. Vous avez aussi des aventures absolument exceptionnelles avec des coraux considérés moribonds ou même morts et qu'avec la présence de colonnes sous-marines avec de la musique, ils reviennent à la vie. Et cela existe, c'est prouvé scientifiquement. Donc, si vous voulez, c'est mettre la musique au cœur de la société avec tous ses bienfaits et notamment... Vous avez souligné quelque chose qui est absolument fondamental, c'est le lien musique-santé qui est absolument essentiel.
Alors le 9 mars, le Centre européen de musique a organisé une journée dédiée aux femmes compositrices. Que faut-il faire, Georges Chaminet, encore pour que l'œuvre des Européennes soit davantage programmée en concert ? D'abord, est-ce qu'on a, parce qu'il y a plein de femmes compositrices qui sont invisibilisées, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les mettre à l'honneur ?
Ben, il faut faire tout, ou presque, parce que malheureusement, sans aller plus loin, les organisateurs de concerts, même depuis quelque temps où cette matière, d'une certaine façon, est sur le front, n'est-ce pas, l'importance de la femme, des femmes, comme créatrices, et notamment pour la musique, comme compositrices. Vous voyez que, par exemple, encore aujourd'hui, dans les programmes de concerts, vous n'avez que 17% où il y a une présence féminine. Donc, il y a tout un travail à faire, déjà vis-à-vis des programmateurs, mais également de faire connaître au grand public des œuvres majeures de la littérature musicale qui ont été composées par des femmes.
Il y a un vrai travail de pédagogie à faire aussi en amont.
Et cela depuis Sappho, n'est-ce pas ? Depuis Sappho, en passant par des compositrices aussi exceptionnelles qu'Hildegard von Bingen, que Barbara Strozzi, Francesca Caccini, et bien d'autres. Et Magdalena Casulana, par exemple, qui a été la première femme à être publiée, et cela au XVIe siècle, elle a écrit dans sa préface qu'elle dédie à Isabella dei Medici, elle écrit cette, finalement, encore aujourd'hui, vérité, et il faudrait que les hommes, une fois pour toutes, comprennent qui ne sont pas les seuls possédeurs de créativité et d'intelligence. Ça a été écrit au XVIe siècle. Donc, nous avons un besoin, à mon avis, dans cette volonté qui est nôtre, je l'espère, d'une profonde égalité entre les femmes et les hommes, de faire tout ce travail pédagogique, mais aussi d'inclure de plus en plus les œuvres de femmes compositrices.
Alors, il y a un autre projet auquel vous prenez part bientôt, c'est Ode to Joy. Pourquoi peut-on dire que la 9e symphonie de Beethoven est une œuvre européenne ?
Écoutez, elle est européenne parce que naturellement Beethoven était né à Bonn et habitait Vienne. Donc, dans ce territoire, dans cette espèce de promontoire asiatique qui, à un moment donné, est devenu l'Europe. Et je pense que l'importance, si vous voulez, de l'ode à la joie, elle est immense. Et elle a été un tout petit peu édulcorée à partir du moment où c'est devenu l'hymne européen. Je dis cela parce que les mots sont fondamentaux. Vous savez, Beethoven va lire l'ode à la joie quand il a 16 ans. À 22 ans, il est auditeur à l'université de Bonn et il demande à son professeur, qui était un ami de Schiller, de lui faire parvenir un message en disant « Je vais écrire de la musique sur ces belles paroles de l'Ode à la joie ». Donc, à partir du moment où on enlève les mots, on enlève le sens de cet hymne. Et Karajan, qui a fait ce travail pour faire simplement une version instrumentale de l'hymne européen, je crois qu'on s'est coupé, si vous voulez, de la force de ces mots qui nous invitent finalement à la dignité d'être un être humain. Ça veut dire la fraternité, l'universel, la paix et la joie qui en découle. Et donc, je pense que là, on réunit finalement devant l'absurde qui sont les temps nôtres aujourd'hui, le principe même de ce que nous avons voulu installer dans le Centre européen de musique. L'absurde, dans son étymologie, c'est absurdus. Ne serait-ce pas donc dans un développement de l'ouïe, sens aujourd'hui, comme je disais, si maltraité et si peu présent, que nous pourrions trouver l'espérance de meilleurs jours. Serions-nous encore sourds à l'appel du sourd Beethoven, qui depuis 200 ans nous appelle à changer de tonalité, à nous entendre. Et donc, je suis très fier et honoré qu'avec la Fondation Hippocrène, avec la Fondation Yehudi Menuhin, l'Europa Nostra, l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne, nous ayons donné ce challenge, notamment aux jeunes générations, pour repenser le message que Beethoven nous a laissé.
Le but du projet Ode to Joy, c'est de permettre aux jeunes Européens de se réapproprier les œuvres classiques.
Absolument. De se réapproprier et d'établir ce pont. Vous savez, Beethoven, finalement, que serait-ce la musique sans Beethoven ? Quand on pense que dans Beethoven lui-même, dans son œuvre, il y a déjà les germes, les embryons de ce qui va devenir la musique pop, le jazz, il a ouvert des portes et des horizons absolument extraordinaires. Et donc aujourd'hui, nous qui pratiquons cette musique, la musique dite classique, on nous qualifie immédiatement soit élitiste, soit une musique pour vieux. Mais pas du tout. Et donc c'est établir ces ponts avec d'autres musiques, qui sont aussi importantes que la musique classique, et qui ont été souvent des sources aussi pour la musique classique. Voyez-vous, le premier conservatoire de musique, il a été créé en 824 à Cordoue, à l'émirat de Cordoue, devenu après califat de Cordoue. C'était un monsieur qui s'appelle Ziryab, qui est venu, né à Mossoul, éduqué à Bagdad, après à Damas, et qui est venu en Andalousie, dans le célèbre Al-Andalus, et qui a créé cette première école de musique. Nous sommes dans une Espagne musulmane et cette école est ouverte aux femmes. Les femmes sont instrumentistes, danseuses, elles sont compositrices, elles sont poétesses, elles sont instrumentistes. Aujourd'hui, nous avons un islam qui nous raconte exactement le contraire. Donc, où est la vérité ? Donc cette exemplarité, c'est aussi quelque chose qui est absolument fondamental pour nous au Centre européen de musique. C'est de revenir au dialogue, car Ziryab va établir la première forme musicale profondément hybride qui est résultante de la tradition hébraïque, de la tradition chrétienne et de la tradition arabo-andalouse. La musique permet tout cela. C'est Héraclite qui disait que c'était la seule manifestation humaine qui pouvait épouser les opposés, les contraires. Et elle est ce pont qui nous manque. Et c'est pour ça que notre but, peut-être un peu utopique ou utopique, serait exactement celui d'installer de nouveau la musique au cœur même de notre culture et de notre société.
Vous avez l'impression qu'il y a un lien qui a été rompu entre les jeunes Européens et le vaste répertoire classique ?
Certainement, parce que nous sommes aujourd'hui dans une immédiateté. Si vous voulez, la notion du temps est pour moi aujourd'hui peut-être la clé pour passer à autre chose. Nous sommes dans une instantanéité, n'est-ce pas ? Dans un présent qui finalement est tellement absorbé par des désirs constants et inassouvis que tout d'un coup, s'installer dans un temps plus large devient presque impossible. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des grands buts de notre Centre européen de musique, c'est celui d'établir de nouveau ce pont et d'établir un temps différent, d'établir quelque chose qui est un continuum. Et à l'intérieur de ce continuum, c'est aussi une variation perpétuelle. Et que les jeunes aussi, avec ce travail d'atelier pédagogique, avec les scolaires, avec les collèges, avec les lycées, que nous sommes en train de monter avec l'Académie de Paris, entre autres, mais aussi dans des pays étrangers, c'est exactement celui de revenir à cette présence quelque part qui aujourd'hui malheureusement est absence. Et absence reliée à mon avis à des partis pris et à des a priori qui sont complètement faux. Quand vous voyez par exemple l'importance de la musique tzigane dans la musique classique, elle est fondamentale. La musique populaire dans la musique classique, mais elle est fondamentale. Donc, ne prenons pas la musique classique comme quelque chose qui serait une sorte de has-been. Au contraire, c'est l'art des sons. Et l'art des sons, il est absolument fondamental si, naturellement, on travaille cette écoute qui me semble, là aussi, une leçon de démocratie. Par exemple, nous sommes en train d'établir des ateliers pour faire comprendre aux élèves, aux scolaires, combien un quatuor à cordes, par exemple, c'est une leçon de démocratie. Et tout d'un coup, de façon très concrète, je dirais presque immédiate, ils comprennent que c'est par l'écoute qu'on peut sortir de la cacophonie.
Un rêve pour le Centre européen de musique, Georges Chaminet. Quel est votre rêve par rapport...
Naturellement, le rêve nous fait avancer. Et sans rêve, on serait des espèces de légumes. Mais par contre, je dirais que c'est une réalité à conquérir. C'est une réalité, ça demande énormément d'efforts, énormément d'énergie, parfois aussi braver des moulins à vent qui sont des géants, mais je pense que c'est le but du Centre européen de musique et également le mien.
Merci beaucoup, Jean Chaminet.
Merci à vous et bonne écoute.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.